entre ondes et particules, qui est la base de la physique moderne et dont on sera sans doute amené à reparler. J'ai parlé essentiellement de lumière visible, mais il existe également des rayonnements que l'on ne voit pas, soit parce que la fréquence des ondes électromagnétiques est plus petite qu'elle ne l'est pour la lumière, c'est ce qu'on appelle les ondes radio, les ondes radiofréquences, ou plus grandes, c'est ce qu'on appelle le rayonnement ultraviolet, le rayonnement X, et une part importante de ce rayonnement est produite artificiellement par les technologies modernes. Toute notre technologie de la communication est basée sur la propagation des ondes radio, que ce soit pour la radio, la télévision ou le téléphone portable par exemple, et il s'agit là encore de lumière, même si c'est une lumière que l'on ne voit pas. À l'autre extrémité du spectre, si l'on parle des rayons X, eh bien, on sait très bien que ceci joue un rôle essentiel pour le diagnostic médical, par exemple, et les méthodes de génération, de détection et d'exploitation des rayonnements X jouent un rôle fondamental dans notre monde. Une révolution qui s'est produite au XXe siècle, ça a été le laser. On célèbre cette année, donc en 2010, le 50e anniversaire du laser. Et le laser, c'est un appareil qui génère de la lumière, je dirais une lumière domestiquée. Alors que la lumière des sources naturelles est une lumière qui est chaotique, qui a un caractère aléatoire très marqué, les photons que produisent les lasers, eux, sont domestiqués. Ils oscillent tous à la même fréquence, ils marchent au pas, si j'ose dire, et ceci donne à la lumière des propriétés qui permettent de développer des applications extrêmement importantes. Et les lasers jouent un rôle fondamental dans notre vie quotidienne, même si on ne s'en rend pas compte, même s'ils sont cachés sous le capot des appareils lecteurs de CD, lecteurs de code-barres de supermarchés ou appareils médicaux. Il y a partout des lasers, partout de la lumière. Je pense aussi aux fibres optiques qui propagent la lumière un peu partout et qui ont permis le développement du monde de la communication dans lequel on vit, de l'Internet et de toutes ces applications. Donc la lumière joue vraiment un rôle essentiel en science, dans la technologie et bien sûr dans l'art, puisque les manifestations de la lumière en peinture, en sculpture, en architecture sont essentielles. Et donc c'est cet aspect universel de la lumière qui m'a toujours fasciné et j'ai été très heureux dans toute ma vie de pouvoir travailler fondamentalement sur la lumière et être à la fois l'acteur et le témoin de révolutions permanentes qui se sont produites au cours des 50 dernières années, qui ont permis des avancées extraordinaires dans la compréhension fondamentale des phénomènes lumineux. Jusqu'au début du XXe siècle, notre connaissance du monde était basée sur les concepts de la physique classique, une physique qui a été établie sur des bases solides au XVIIe siècle, après les travaux de Galilée et de Newton en particulier. Cette physique, elle est basée sur des concepts simples, la notion de déterminisme en particulier, le fait que si l'on connaît les conditions initiales d'un système, si l'on sait exactement comment un ensemble de particules est décrit à un instant donné, quelles sont les positions et les vitesses des particules, eh bien on peut, à partir d'équations simples, déterminer toute l'histoire ultérieure du système. Elle est parfaitement déterminée. La physique quantique a complètement bouleversé cela en essayant de comprendre ce qu'il se passe au niveau microscopique. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, en effet, la connaissance du monde que l'on avait était une connaissance macroscopique. On voyait des objets, mais on n'avait aucune idée sur la façon dont ces objets étaient constitués à l'échelle de l'infiniment petit. Les notions d'atomes pour la matière ou de photons pour la lumière étaient parfaitement inconnues. Et les progrès technologiques de la fin du XIXe et début du XXe siècle ont conduit les scientifiques à s'interroger, à essayer de comprendre quel était ce monde de l'infiniment petit qui était resté inaccessible, et petit à petit se sont dégagées des notions extrêmement étranges, très contre-intuitives. On est arrivé à la compréhension que la matière était constituée d'atomes, que ces atomes étaient eux-mêmes constitués de particules subatomiques, les électrons, les noyaux atomiques eux-mêmes constitués de protons et de neutrons. Donc tout un zoo de particules nouvelles est apparu, mais ce qui a été le plus remarquable, c'est qu'on s'est rendu compte que ces particules n'obéissaient pas à la logique du monde classique. Elles obéissaient à des règles, à des lois qui défient notre intuition de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Maintenant, avec le recul, cela n'est pas tellement étonnant, puisqu'on sait que l'intuition que l'on acquiert du monde provient de l'évolution, du fait que notre cerveau s'est formé au cours de milliers de générations à essayer de comprendre le monde, parce que ça donnait un avantage évolutionniste à ce cerveau pour réagir aux événements. Et évidemment, les événements du monde quantique n'étant pas directement les événements de notre expérience quotidienne, notre cerveau n'avait aucune raison de comprendre ce monde.